Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour. Aujourd'hui, parmi les livres primés par l'Académie française...
La théorie des nuages, le roman de M. Stéphane Audegui, vaut à son auteur de recevoir le prix Maurice Genevoix.
Alors d'abord le prix. Ce prix est tout récent puisqu'il a été créé en 2004. Et il porte le nom de l'écrivain illustre que tout le monde connaît évidemment, qui fut élu à l'Académie française en 1946 et qui en a été le secrétaire perpétuel de 1958 à 1974. C'est donc un prix cher au cœur des académiciens et il est destiné à un ouvrage illustrant les valeurs morales et humaines qui ont guidé Maurice Genevoix, écrivain, sonneur d'alerte. Stéphane Audegui, avec la théorie des nuages, en est le deuxième lauréat. Alors, qui est Stéphane Audegui? Eh bien, c'est quelqu'un, non pas de mystérieux, mais d'un peu mystérieux. Il y a quatre lignes de l'éditeur au dos du livre pour expliquer que l'auteur de ce premier roman, qui a d'ailleurs eu la bourse Tidmonier pour les auteurs de premiers romans, enseigne l'histoire du cinéma et des arts dans un établissement public des Hauts-de-Seine. Alors, au fil de la toile, c'est-à-dire d'Internet, nous en avons glané un peu plus. Stéphane Audegui, 40 ans, est né à Tours. Il a été, et ça c'est important pour son style qui s'apparente à un certain montage, un art du montage, il a été assistant monteur pour le réalisateur Cédric Clapiche. Il est agrégé de lettres modernes et, le vénard, il a été l'élève de Robert Merle avant de partir, passer un an pour les États-Unis comme assistant à l'université de Charlottesville en Virginie. Il y a travaillé sur Burroughs et il y a des petites traces de Burroughs dans sa vision des femmes, si l'on peut dire, ou les visions de l'érotisme plus exactement. Et il a travaillé aussi sur la mythologie de la modernité. Et là, on peut aussi le voir dans son livre. Alors, une internaute qui s'appelle Shadi Biglarzadeh l'a même interviewé pour son site. Elle est très enthousiaste et elle a fait une petite revue de presse. Et la presse, il faut dire, est dithyrambique, a été dithyrambique. Par exemple, Télérama dit le premier roman d'une intelligence sidérante. Et il faut dire qu'on est d'ailleurs sidéré au sens propre. D'autres disent un thème passionnant, étonnamment bien mené, une œuvre ambitieuse et splendide qui embrasse le monde, ces deux derniers siècles et le tragique de l'homme. Et elle demande à notre auteur « Comment réagissez-vous à tout ça ?» Et je dois dire que j'ai bien aimé sa réponse et il a répondu en travaillant. Nous signalons aussi que c'est un monsieur sur le berceau duquel beaucoup de fées se sont penchées puisque ce roman a remporté aussi le Grand Prix 2005 du Livre des Dirigeants. Voilà, ça n'est pas un hasard. Et ce Grand Prix du Livre des Dirigeants a été organisé par l'Expansion Management Review et Mercer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas parlé du livre. Le livre, bon, il s'appelle La théorie des nuages. C'est évidemment un jeu sur les mots, mais par théorie, il faut surtout entendre succession. La théorie donc des nuages, c'est une invitation au voyage et un drôle de voyage à travers le temps et l'espace. Et surtout, en levant les yeux au ciel et en regardant les merveilleux nuages dont les cerveaux, souligne l'auteur, épousent la forme. Bah, fallait y penser. Les cerveaux ont la forme de nuages. Et bientôt, il va découvrir que les dames, en leurs côtés obscurs, épousent aussi la forme des nuages. Nous allons le voir puisque sur le bandeau, si je puis dire, l'auteur a ajouté « et la théorie des corps ». Point de suspension. Bien. Nous y reviendrons. Mais ce livre, c'est donc un comble de sophistication, d'érudition, d'imagination qui est sauvé du docte par l'insolite de la phrase Et on dirait un nuage d'élégance, comme on dit un nuage de lait dans un breuvage assez noir. Il nous met déjà sur la piste de sa psyché, si l'on peut dire, en commençant par une citation du plus matérialiste des poètes antiques, Lucrèce. Et Lucrèce, au fond, est sous-jacent, quand on le connaît bien, à tout le livre. Et ce Lucrèce, ce poète antique, rappelons-nous, c'est le poète de l'atome, c'est celui qui explique que tout ce qu'on voit encore se développer dans les airs et naître au-dessus de nous dépend des propriétés des atomes. Alors, nous allons voir que nous sommes un mélange d'atomes, d'eau et de poussière, ce qui n'est pas très affriolant, mais qui va mener notre Stéphane Audeghi à des choses, à un livre qui est tout à la fois académique et monstrueusement hors norme. Alors, l'histoire paraît simple, hein. Un couturier japonais célèbre, Akira Kumo, qui ressemble à des couturiers modernes, voué aux collections sous toutes les formes, comme le lui soulignera son psy, collection évidemment de haute couture, collection d'un tas d'autres choses. Alors quand le psy, au terme d'une longue histoire où lui garde le silence en permanence, et la première fois qu'il prend la parole, c'est pour regarder les nuages par la fenêtre et dire qu'il voudrait bien collectionner des livres sur les nuages, et le psy lui répond qu'il est donc voué aux collections. Ce qui rendra notre couturier furieux de payer pour de si mauvais calembours, dit-il, et l'incitera à partir. Fin de la psychanalyse. Ce qui n'est pas un hasard, bien entendu. Alors, ce Kumo engage une bibliothèque très moyenne, ni belle, ni laide, ni intelligente, ni stupide, une sorte de femme sans qualité qui s'appelle Virginie Latour, pour classer tous les livres de sa bibliothèque consacrés à un seul sujet, vous l'avez deviné, les nuages. Virginie Latour, c'est le seul visage féminin du livre et il n'est pas bien, je vous dis, pas bien gai et pas bien gouléant. Ça n'est qu'un début. Deuxième histoire menée en parallèle dans ce millefeuille littéraire. Le couturier se met à raconter l'histoire de la poursuite des nuages et de leur classification par trois personnes. Par l'inventeur quaker Luc Howard, qui commence à les classer en cumulus, stratus et nimbus. Il y a un portrait d'ailleurs très tendre de Luc Howard, qui est l'un des personnages les plus tendres du livre. C'est le pur, c'est l'homme pur. Puis par le peintre Carmichael, qui classe aussi les nuages différemment et en peinture. N'oublions pas que Stéphane Audeghi est professeur d'histoire de l'art. Et par l'énigmatique Richard Abercrombie, auteur d'un protocole des nuages qui a disparu et dont on va découvrir qu'il est l'une des clés de l'énigme du livre. Alors, Luc Howard, pour vous donner aussi un exemple, ce que nous faisons toujours du style de l'auteur, Audeghi le décrit ainsi. Avant lui, les nuages n'existent pas en tant que tels. Ce ne sont que des signes, signes de la colère ou de la félicité des dieux, signes des caprices du temps, de simples augures, bon ou mauvais. Pour les comprendre, prétend Luc Howard, il faut à un moment les considérer en eux-mêmes, pour eux-mêmes. Bref, il faut les aimer, et il est en réalité le premier à le faire depuis l'Antiquité. C'est bien la seule chose qu'on aime dans ce livre, les nuages, et c'est assez fascinant. Alors, Carmichael, lui, est un peintre qui, en observant les nuages, élimine progressivement de la toile toute figure humaine. Donc, progression d'Audeghi dans la dissipation des atomes. Il écrit « La robe vert d'eau se fond dans la pelouse, toutes les nuances du corsage bleu pâle noyé de lumière s'accordent au ciel et aux nuages. En achevant cette œuvre-là, Carmichael sait qu'il en a fini avec la figure humaine. Il sait qu'il n'en peindra plus jamais. » Et le troisième vient, c'est Abercrombie. L'homme qui, à la poursuite des nuages, découvre le sexe. Et tout cela passe par la mort d'une orang-outan femelle qui l'éveille aux femmes, si je puis m'exprimer ainsi, mais ça n'a rien de coquin. C'est même une histoire qui est la plus bouleversante du livre, parce que il est en train d'être nu dans la forêt vierge, à la suite de longues histoires. Il s'est mis nu pour enlever les sangsues qui le mordaient. Et à ce moment-là, il sent un regard, et c'est le regard d'un grand singe qui le regarde, dit notre Audeghi, comme on regarde un singe. Et dans ce regard de bête qui n'a jamais croisé celui d'un homme, il n'y a absolument rien de sauvage. Au moment où les deux êtres se regardent, Laurent Houtan explose, le regard de Laurent Houtan explose parce que un chasseur, un tartarin des colonies, vient de faire exploser l'animal. Et c'est vraiment avec cette mort, c'est toute l'innocence du monde qui meurt pour Abercrombie. Et du coup, il va s'épuiser dans des maisons d'illusions, il entre au bordel comme on entre au couvent, et il va léguer au monde, il va glisser de sa collection de photos de nuages à une collection de photos de quelque chose qui ressemble aux nuages chez les dames qu'il côtoie. Je vous laisse découvrir ce qu'est le protocole Abercrombie. La troisième histoire, qui n'est pas tout à fait la dernière, mais c'est la véritable, c'est celle de l'enquête que mène Akira Kumo sur sa propre falsification de son histoire. Sur sa naissance véritable, il découvre tout d'un coup qu'il a 13 ans de plus, qu'il ne le dit et qu'il ne le croit. Et on va découvrir que le nuage fondateur, le nuage originel, si l'on peut dire, n'est même pas le sexe de la femme. Le nuage fondateur, c'est celui du champignon d'Hiroshima. Car il n'est pas né à Tokyo comme il le croit ou veut le faire croire, mais il est né à Hiroshima. Et nous approchons de l'indicible d'Hiroshima, qui reste indicible bien qu'il le dise. Il faut découvrir pourquoi c'est indicible, à part toutes les raisons que l'on peut imaginer. Et au fond, il amène Hiroshima par l'explosion d'un volcan qui se transforme en nuage et qui s'appelle le Krakatoa, qui a explosé de tous les côtés. Il en fait une description absolument extraordinaire, dans une langue admirablement maîtrisée. Et en même temps, c'est peut-être le moment où, enfin, l'émotion crève, si l'on peut dire, parce que l'émotion est retenue dans le nuage qu'est son livre, et tout d'un coup elle crève, elle a failli crever déjà avec l'histoire de Laurent Houtan, mais tout d'un coup elle crève avec cette horrible histoire du Krakatoa que je vous laisse découvrir et qui vous fait frémir. Et le Krakatoa disparaît, et voilà qu'il se transforme en nuage. Il devient lui-même une tempête de sable, d'eau et de vent. D'abord, il s'étire et s'arque comme un tigre sur une hauteur de 20 kilomètres. Et dans un premier temps, il a semblé immobile. Au bout de plusieurs heures, il s'allonge comme un prédateur paresseux sur des kilomètres d'atmosphère, écrasant sous sa masse des milliers de tonnes d'air froid. Et appuyé sur elle, il s'en va lentement tournoyer dans tout l'hémisphère nord. Il s'en va modifier le climat, indifférent à tout. Et plus loin, plusieurs années passent ainsi. Le temps est venu pour le volcan de s'effacer du ciel. Alors, comme s'il se souvenait au moment de mourir, de son glorieux passé terrestre, le défunt Krakatoa se disperse à une vitesse croissante dans toutes les couches de l'atmosphère, provoquant des diffractions inédites de la lumière du soleil, inventant des aurores flamboyantes, des magnifiques couchers de soleil qui semblent un océan de métal liquide piqué de vert émeraude et de nuances d'ocre subtiles, des couchers de soleil comme de mémoire d'homme on n'en a jamais vu, et le ciel se pare la nuit de bleus ultramarines. Voilà un exemple du style, évidemment, d'Odegui. Je ne peux pas tous vous les citer parce que je lirai le livre, mais il est vraiment magique, entraînant. Et c'est l'histoire de, au fond, de la mort et de la dissolution en permanence, du suicide toujours reporté. Ces descriptions homériques de nuages monstrueux qui menacent l'humanité, avec ces phrases qui, comme les nuages, grossissent, s'enflent et crèvent, ne se retrouvent pas alors dans la théorie des corps, c'est-à-dire dans les descriptions des tempêtes de la chair qui, il faut le dire, tombent volontairement à plat. Elles déçoivent complètement par leur côté terre à terre, et c'est voulu évidemment, car ici le corps lui-même n'est qu'atome d'eau, de glace et de poussière, comme le veut Lucrèce. Le roman est presque entièrement au présent, presque entièrement. Ce n'est pas comme chez Camus, le plus célèbre livre au présent qui est L'étranger, ou qui souligne l'absurde du monde, mais il s'agit d'une sorte d'insensibilité volontaire au monde vécu, d'une frigidité du cœur, où ne restent d'érotiques que des scènes crapoteuses de jouissance ou des rencontres avec des prostituées en kyriel, les femmes, chez Odegui, servent en quelque sorte de cintre des sentiments. Ce qui n'est pas glorieux pour nous autres mesdames, mais c'est d'une force et d'une cruauté terrible, qui n'est même pas cruelle d'ailleurs, ce qui impliquerait un sentiment. Bon, le livre d'Odegui est donc un livre sur l'obsession de la collection, collection de modèles, collection de livres anciens, collection de nuages, obsession de la pénétration du secret des choses. Et c'est une obsession, littéralement, de la maîtrise et de la langue. Alors en Hongrie, on appelle ceux qui passent leur vie en ces choses vaines et inclassables qui vont du rêve à la littérature, des éplucheurs de vent. Ce livre nous fait découvrir qu'en épluchant les nuages, on peut parfois atteindre ce mélange d'eau, de glace et de poussière de sable qui, animé d'un souffle, peut s'appeler l'homme.